Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous avec toute l'équipe, Émilie, Marion, Pierre et Patrick.
Bonsoir
à tous les quatre. À la une ce soir, un petit village de pêcheurs célèbre dans le monde entier depuis le début des années 60. Havre de paix pour le peintre Paul Signac, Colette, Françoise Sagan ou encore Brigitte Bardot, des icônes qui feront de ce port un mythe, celui du lieu de la liberté, de la transgression et de l'insouciance hédoniste, où même les gendarmes sont des stars.
Qu'est-ce qui se passe dans le gendarme se marie de Funès?
Le gendarme se marie.
C'est vous?
Oui.
Vous mariez avec qui?
Avec Claude Jansac.
Avec Claude Jansac?
Oui.
Ah, et la cérémonie a déjà eu lieu?
Comment?
La cérémonie a déjà eu lieu?
Oui.
Comment ça s'est passé, Michel?
Oh, ben très bien, ça a été très dur, quoi. On a recommencé plusieurs fois sous le soleil. Enfin, c'est marié une vingtaine de fois, c'est ça?
Oui.
Au moins. Oui, ça a été très pénible.
Plus de 50 ans après le tournage de la trilogie des gendarmes à Saint-Tropez, un autre duo magique prend le relais de Funès et Galabru.
Vous êtes là pour enquêter sur une tentative de meurtre.
Le baron a demandé une enquête rapide.
Inspecteur Bourin.
Boulin, Jean Boulin.
Donc discret.
Cette mission va me permettre de faire des étincelles.
Benoît Poulvorde et Christian Clavier réunis à l'écran dans Mystère à Saint-Tropez. Ils sont ce soir nos invités aux côtés de l'irrésistible Virginie Hoc. À la une également ce soir, un éternel second.
Quel est votre favori?
Poulidor, bien sûr.
Votre favori?
Poulidor.
Et pourquoi vous le préférez, celui-là?
Parce que je l'aime.
Oh, Poupou!
Pourquoi?
Il est trop vieux.
Je sais
pas.
Il est vieux?
Parce qu'il est populaire.
C'est celui que je préfère parce que c'est un vieux de la vieille. Et il est très populaire.
Une assiette Poulidor, qui n'a pas son assiette? 20 francs l'assiette.
Vous avez vendu combien, là?
500 par jour.
Combien?
500 par jour.
500 par jour?
Oui.
Et ça, combien vous les vendez?
20 francs.
20 francs, c'est normal. Ça fait des sous, ça, oui.
Raymond Poulidor n'a jamais gagné le Tour de France, mais il en reste l'un des coureurs préférés. Alors que s'élance samedi de Brest la 108e édition du Tour, souvenir des moments les plus marquants de l'épreuve reine du cyclisme avec l'écrivain et journaliste Christian Laborde, qui sera dans un instant sur notre plateau. Angèle de la guinguette d'Angèle, un menu tropézien ce soir, Angèle?
Un menu un peu spécial parce que je fais un risotto à base de noisettes, de pignons, de citron vert et de petits pois. Avec une crème d'amande et du miso. C'est un risotto qui est complètement végétal.
Merci beaucoup, chère Angèle, à tout à l'heure. C'est la comédie policière rétro de l'été, dans la veine des Visiteurs, des Anges gardiens ou d'Opération Corned Beef. Avec Christian Clavier, je couvre la voix de nos invités qui sont intenables en coulisses. Dans la peau du commissaire Boulin, prototype de l'inspecteur gaffeur, totalement incompétent, chargé d'enquêter sur des menaces inquiétantes qui visent Benoît Appleborn, le baron milliardaire.
Il absolument pas comment il faut faire.
Et non, Claude Tranchant et son épouse.
Coucou tout le monde.
Virginie Hoc.
Pardon, bonjour, bonjour. Pardonnez-moi parce que on ne nous a pas du tout expliqué comment il fallait faire, comment il fallait
refaire. Bonsoir, ça va.
Bonsoir,
bonsoir.
Bonsoir, bonsoir,
bonsoir, bonsoir,
bonsoir, bonsoir.
Anne-Elisabeth.
Bonsoir, Philippe Lescure. Et donc, on est...
J'ai même pas eu le temps de raconter le film ni de lancer une bonne annonce. Ça ne vous intéresse donc pas?
Nous ne sommes pas là.
Nous l'avons vu, nous le connaissons.
On se posait le problème de comment rentrer. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait quand même une espèce de trou, quoi.
Un rail de sécurité.
Et oui, donc sinon, est-ce qu'on se prend les pieds dedans ou pas, quoi? C'était une...
Ah bah si, on veut faire un gag. Le commissaire Boulin se serait pris les pieds dedans.
Ah, ça c'est sûr.
Eh oui, merci Virginie.
Boulin ne fait pas que des gags, il a une méthode. C'est quand même quelque... Oui, il a une méthode.
C'est une méthode Boulin.
C'est le fils naturel de Maigret et de Clouseau, parce que c'est aussi un grand hommage à Black Edwards et à la Panthère Rose. Mm-hmm. Et c'est vrai que ce personnage... Et ça nous appartient, parce qu'ils se sont beaucoup moqués de nous. C'était un flic français, rappelez-vous. Hein, à Vugoterum. Et donc, on s'est dit avec Jean-Marie, tiens, ça serait bien...
Jean-Marie Poiret.
Jean-Marie Poiret, ça serait... Enfin, d'abord et avant tout, j'ai voulu faire un film avec Benoît.
Est-ce que vous
non, je préfère moi carrément parler parce qu'il n'y a aucune question, il n'y a rien.
Donc, ah non.
Donc je me dis autant le faire nous, oui. Quoi, tu vois.
Est-ce que je peux demander un verre d'eau?
Non. Il y a beaucoup de produits pour se laver les
mains. C'était ma première question.
On regarde la bonne annonce.
Un sabotage, 8 suspects, une série de catastrophes, un casting 5 étoiles.
Est-ce que vous connaissez le baron Tranchant?
Inspecteur Bourrin.
Voilà.
Madame Tranchant a reçu des lettres de menace de mort. Hier, sa Floride a été sabotée.
Allez, à nous deux, Saint-Tropez.
On dit Saint-Tropez, pas pèse.
On dit bien merguez et pas merguez. Mais s'il y a du nouveau, hein. Le crime est pour ce soir.
Doucement !
C'est bon ça ! On dirait que vous avez les jetons, alors vous allez foncer.
Non !
Comme quoi, hein, quand on mène une enquête avec méthode depuis le début, le résultat est toujours au rendez-vous.
Ah ! Qui a fait ça ?
Oh !
Oh !
Ah !
Ah !
Le baron est cocu, et ça, c'est un véritable mobile.
Il est au courant qu'il est cocu ?
Ah non !
S'il ne sait pas qu'il est cocu, où est son mobile ?
Ah oui ?
On est ravis de vous accueillir à l'occasion de cette comédie, donc écrite avec Jean-Marie Poiret, avec un objectif.
Et Jean-François Alain.
Et Jean-François Alain.
C'est un mélange de générations. J'avais beaucoup aimé OSS 117. Et le film se passe dans les années 70. Hein. Époque complètement libre, totalement légère. Et on s'est dit, on va faire un film qui nous rappelle cette époque-là.
Parce que ça vous manque.
Non, non, j'ai pas de nostalgie par rapport
à
ça. Mais sur l'écriture, d'un scénario où aujourd'hui, tout est tellement sur surveillance. Dès que tu fais un pas, tout est interdit. En 70, ils fument comme des pompiers.
Oui.
Les jeunes femmes sont seins nus sur la plage. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes de maintenant.
On ne met pas de ceinture dans les R8.
On ne met pas de ceinture dans les R8. On conduit à 200 à l'heure. Tout est possible.
Tout est permis.
Tout est permis.
On faisait du sein.
Même les choses les pires.
On osait les couleurs, le goût un petit peu fastueux, la joie. Non, c'est vrai, c'est un film où...
Saint-Tropez de cette époque-là, c'était quand même...
Ils se sont donné les moyens...
Et quand Madame la Baronne accueille, elle donne une instruction à ses invités, maison magique.
Il faut que tout soit magique et j'y tiens, c'est le maître mot et je n'ai pas peur d'aller jusqu'au bout.
Ils sont très généreux. C'est un couple de milliardaires extrêmement généreux.
Les Tranchants.
Voilà, les Tranchants. Ils s'aiment
milliardaires dans la bière. Hein.
Ils s'aiment beaucoup.
C'est important qu'ils soient milliardaires dans la bière.
Ah non, c'est lui qui l'a écrit. Je me suis dit, est-ce pour ça qu'il m'a choisi ?
Réponse.
Non, pas du tout. Non, parce que la Belgique. C'est la bière.
Bah tiens.
Et des bières magnifiques. Ouais. Bon.
Là, c'est un peu raciste. Si résumer la Belgique à de la bière et des
non, 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 mais c'est
aussi vos discours, ça.
C'est merde, ça. Non, mais
jouer carte sur table, on y est. Ça y est, c'est des couleurs. C'est ça.
Non, tu sais très bien ce que je veux dire.
On est parti.
Ne bouge pas d'ici.
C'est ce que les gens ressentent. C'est vrai, quand on ne connaît pas, on se dit la bière est frite. Et
on se sert de la bière et des frites.
En plus, c'est quelque chose que tu ne bois pas, la bière. C'est vrai que tu n'en bois pas. Il n'en boit jamais.
Il a la française.
Voilà.
On aime la façon de vous appeler votre mari Minet. Et d'ailleurs, vous aussi, inspecteur, vous l'appelez Minet.
Oui, mais parce que moi, je suis sous couverture. Moi, je viens enquêter. Il y a des menaces de mort, des tentatives d'assassinat. Ce sont tous des suspects, y compris lui. Donc, je viens sous couverture. Je fais une enquête avec une méthode... un instinct relativement fort, qui est une méthode assez originale. Le type est très prétentieux. Et donc, il cherche... Il va probablement trouver, voilà.
Vous vouliez tourner avec Benoît?
Oui, moi j'ai fait, dans ma carrière maintenant un peu longue...
Se devait de l'argent.
J'ai fait beaucoup de duos.
Se devait de l'argent.
Oui, c'est vrai que...
Arrête de mentir, les gens finissent par le voir, je te le dis tout de suite.
Non, c'est vrai que je t'ai prêté.
Non, il m'en devait beaucoup.
Non. Ah non, c'est l'inverse.
Oui, je t'en devais
beaucoup. Oui, parce que sinon, ça ne fonctionne pas.
Ce sont des marchés qui n'ont pas... Si.
Moi, les duos, ça m'a beaucoup servi. Jean Reno, Gérard Depardieu, là, je me suis dit, Benoît, on n'a jamais fait. Et Benoît, je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, il y a une vingtaine d'années, je sortais de mon bureau, il pleuvait ce jour-là, il passe avec une énorme voiture, il m'arrose. Il passe, flaf, il pile un peu plus loin.
Exprès, évidemment.
Non, il ne fait pas attention, il s'en fout, comme il est. Et hop, il ouvre la fenêtre, il tourne, il fait, salut Christian. Et il repart. Je me suis dit, ce type-là, faut que je tourne avec lui.
Mais c'est une scène de film.
C'est vrai, je ne le connaissais pas du tout.
Mais
je savais qu'il s'appelait Christian Clavier, donc je ne sais pas.
Mais vous êtes fan de Christian Clavier?
Ah non, ça, depuis...
Moi, je suis fan de lui.
Et de
Virginie. Et de Virginie.
Virginie, elle est exceptionnelle dans le film.
C'est Jacqueline Maillan.
On n'a même pas vu que tu étais là. Il faut te signaler aussi, mon amour.
Mais lui, c'est un génie absolu. C'est-à-dire qu'il est capable de tout jouer. Comme les grands comiques, il est capable de tout jouer. Il est en plus d'une
finesse
qu'on ne voit pas là. si tu veux.
Tu vois jouer un chirurgien?
Oui, monsieur.
Bon, il y a plein de métiers que je pourrais pas faire. Mais... Enfin, non.
Par exemple. Si.
Tu me vois jouer un espion en train de faire?
Oui, oui. Parfaitement.
On nous écoute, tout le monde dit. Mais avec la gueule que toi, tout le monde t'écoute. Ah non, mais... Si ça tombe, je suis peut-être un des plus terribles espions.
Que le... Non, mais je suis.
On ne sait pas.
Je suis en train de l'écrire pour toi, l'espion.
Et
dites... Oh, je te dois encore de l'argent, mon salaud. Oui. Non, le vieux, il faut que je remette mes comptes à neuf.
Et quand tu veux faire une comédie, il faut aller avec des gens qui ont ça. Et qui ont ça naturellement.
Ah, la joie de jouer. Et la ça, on va intégrer notre ami. Parce que
ah, vous
quand
n'avez
même pas
jamais
évident.
Autant ri. Enfin, je sais que l'un est... Benoît, vous dites que vous n'avez jamais autant ri sur un tournage.
Oui,
que celui-là.
Ouais.
Vous aviez même oublié qu'on pouvait rire sur un tournage.
Oui, c'est vrai. Surtout dans ce genre de comédie aujourd'hui. Qui est quand même lourde. Hein. On sait que ça va être lourd.
Donc, c'est-à-dire
c'est compliqué de faire des comédies qui sont lourdes. Budget. C'est-à-dire que les décors vont être lourds, il y a de l'argent parce que, mis à bon escient, mais il va y avoir beaucoup de voitures, beaucoup de figurants, beaucoup d'acteurs. Tout va être lourd. Donc les comédies très lourdes, en général, c'est pas fandard de gueule. Donc tu te dis, ça peut coincer. Eh bien, pas du tout. On s'est amusé comme des enfants. Et là, je rends hommage à la petite, parce qu'elle s'est quand même cognée Gérard dans des séquences où Gérard n'en a. Il joue très très bien, mais il n'arrêtait pas de l'embêter. Et quand on joue à trois,
il n'arrêtait pas de l'embêter. C'est pas pendant le jeu, en faisant...
Non, il me faisait des petites...
Mais qu'est-ce qu'il jouait? Était magnifique.
Mais ce n'est pas gênant.
Voilà, mais t'as une patience d'ange.
J'ai bien aimé.
Ce n'est pas gênant.
Ouais, non, mais non, mais parce que moi, j'avais l'image de Gérard Depardieu. Et là, j'ai vu un homme, un vrai...
Ah bah là, c'est une bande dessinée. C'est plus une image.
Il était charmant.
Il est charmant. C'est ça que je dis.
Ne sois pas jaloux, il est charmant.
Mais je ne suis pas jaloux, je dis juste qu'elle a eu quand même... Elle a beaucoup de mérite parce que...
Non, mais attends.
On ne l'a jamais aidé, sincèrement.
Pierre.
Donc, oui, bonjour, Gérard Pierre. Depardieu, car le casting est de dingue, je suis d'accord. On le voit d'ailleurs dès le générique du début, très années 70, tout le monde est là et c'est une merveille. Gérard, vous avez joué un nombre incalculable de fois avec lui, mais on l'a calculé quand même. C'est 3 et 2, 5 films ensemble et des films qui sont rentrés dans nos mémoires et dans nos plaisirs. Et ça a commencé, plus 2 séries, Les Misérables et Napoléon, qu'il ne faut pas oublier. Et ça a commencé avec Les Anges Gardiens, où Jean-Marie Poiret vous avait bien servi près du ring.
Un nouveau couple de cinéma vient de se former. Après Bourville et De Funès, Richard et Depardieu, Clavier et Reynaud, voici maintenant Clavier et Depardieu réunis par Jean-Marie Poiret.
C'est un petit peu Don Camillo revisité par Terminator.
Gérard, ce n'est pas exactement le texte.
Alléluia, alléluia.
C'est très bien de jouer un prêtre, les gens se confient beaucoup à vous. On vient me parler, ça me fait plaisir. Dieu nous préserve d'ennuyer le public.
Après votre bande des débuts, Christian, Gérard, ça a été l'autre grande rencontre essentielle.
Il y a eu Jean Reno et après Gérard. Mais Gérard, oui, c'est une rencontre essentielle parce que il nous a appelés pour venir avec nous, avec Jean-Marie. Donc on a écrit pour lui. Et après, c'est quand même fou. Gérard, il m'embarque dans Les Misérables pour jouer Thénardier. Il vient me voir tourner le premier jour de tournage. Il me voit donc Thénardier, ancien faux grognard de l'empereur. Et il me fait « Est-ce que tu veux jouer Napo ?» J'ai un temps. « Est-ce que tu veux jouer ou pas ?» Ben, je lui dis « Oui, bien sûr. » Hop, il appelle, il dit « Je crois qu'on l'a, c'est bon. » Et on est parti dans une folie qui a duré 2 ans. Donc, en plus, c'est une discussion ininterrompue. C'est beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup, beaucoup d'amitié. C'est lui qui produit cela. Les Anges Gardiens, ça, c'est autre chose, c'était nous. C'est un souvenir de tournage Hong Kong vraiment magnifique. C'est un acteur, c'est enfoncer les portes ouvertes de le dire. C'est vraiment... c'est comme lui, c'est-à-dire que... quand ils sont capables de faire tous les genres, ce sont des acteurs exceptionnels. Tout le monde ne peut pas faire tout. Eux, oui. Voilà. Et Benoît, qu'il dise « je ne peux pas faire un tout », il est capable de parfaitement tout jouer. Voilà.
Benoît, avec Gérard, il y a eu Saint-Amour. Esthétique. Avec Benoît, il y a eu... Oui. Avec Gérard, il y a eu Saint-Amour. Oui. Et sur le plateau de TF1, avec Audrey...
Ça m'a poursuivi, ça.
On vous voit sur le plateau, et au moment où on vous demande si vous avez bien arrosé votre plaisir à jouer ensemble, Gérard a une de ses fulgurances.
Ah non, c'est avec Gégé, ça.
Qui fait plaisir à tout le monde.
Quand on a une réputation, il faut la tenir. Donc, quand les gens sont là trop, eh ben, on canoche.
On canoche.
On canoche.
Oui, c'est-à-dire ça vient du verbe canon, boire un canon.
Ah, on y revient, voilà. Alors dans le film, justement, il vous vend...
Canoche. Dans toute la France, ça fait canoche, Wikipédia. Du verbe canonner, c'est-à-dire boire un petit canon en société. Comment veux-tu ne pas être heureux?
Des figurances comme ça, t'en as toute la journée.
Et vous dites, Benoît, vous avez pris votre plus gros fou rire avec Gérard sur le tournage de Mystère à Saint-Tropez.
Alors, la scène paraît absurde, enfin, un peu simpliste, mais il va se prendre une flèche dans le cul.
Bah oui.
Là, il faut imaginer Gérard. Bon, déjà, alors, c'est ça qui est génial chez Gérard, c'est qu'il joue le jeu. Tu te dis, oh là là, une flèche dans le cul. Non, mais ça fait rire. Hein. Croyez-moi comment elle lui arrive dans le derrière. Et oui, il doit être, on est dans les années 70, c'est une ambulance des années 70. Oui, et donc, il y a une sorte de brancard des années 70. Et il faut le coucher sur le ventre avec une flèche qui sort de son derrière. Là, je vous donne le pitch, vous allez dire, c'est navrant. D'accord, on va dire, c'est navrant, ça vous fait encore rire, Instagram.
Oui.
C'est même pas ça. C'est que Gérard, il était...
Il est tellement impatient,
les ambulanciers avaient très peur.
Il est allongé sur le brancard, il est impatient. Et donc, il a la flèche plantée, et il hurle. Et les deux types qui sont figurants, évidemment,
étaient très impressionnés.
Et donc, butent dans la voiture. Donc, ça prend du temps. On est tous les deux en train de le regarder dans les personnages, et là, ça part. Parce qu'il hurle de plus en plus.
Le problème, c'est que c'était un vieux brancard. Alors,
de l'époque.
Les ambulanciers étaient très impressionnés, parce que Gérard crie beaucoup. Alors que ça ne veut pas dire qu'il est fâché, pas du tout. Il dit, allez bon. Les deux ambulanciers prennent peur. Alors il devait pousser le brancard dans. Non, et ça cognait. Alors on craignait tout de même que le brancard tombe comme ça, parce que là, Gérard pèse son poids. Et, mais alors ce qui était à mourir de rire, qu'on en avait tout le temps. Clac. Alors il était. Oh oh. Les ambulanciers paniquaient de plus en plus. Mais, alors, il était là. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal.
Oui, c'est très difficile de le rentrer dans une boîte. C'est très difficile de rentrer Gérard dans une boîte. Donc c'était magnifique.
Et non, il jouait le jeu, en plus il restait. Alors il dit, mais non, c'est ça, vous allez rigoler, vous allez la faire 20 fois.
Mais ça, on les verra dans les bonus DVD, non?
C'est oui, on a surtout, on est nous deux, comme deux bedés en train de pleurer de rire.
Virginie, c'était pas le moment où Gérard vous embêtait, quoi.
Non, il m'embêtait pas, mais moi je voulais revenir. C'était vraiment un bonheur, en fait, en tant que comédienne, de pouvoir participer et d'être avec des comédiens comme Christian et Benoît. Benoît, que je connais évidemment par la Belgitude et le pays qui nous rassemble, et que avec qui je n'avais jamais travaillé. Donc il y avait vraiment une espèce d'appréhension d'arriver sur le plateau. Christian, qui est quand même impressionnant, malgré sa petite taille, parce que je suis un peu plus grande.
Ça, c'est ma première scène. Non, ça, c'est
vrai,
on a beaucoup répété avant. Je t'avais dit, voilà, tu évites absolument.
Malgré votre petite taille.
Ça, le côté des tailles, parce qu'elle est somptueuse, mais beaucoup trop grande.
C'est vrai que Christian me regardait. La première scène, je peux vous le dire, c'était comme la rentrée des classes, parce que j'étais contente d'être dans cette aventure. Et je voyais ma première...
Et vous n'avez pas répété, mais il est petit.
Non, je n'osais pas, il me regardait. Il était dans son personnage de boulin, mais je sentais bien qu'il jaugeait. Donc, il n'inquiète ce premier mot, ces phrases qui...
Il y avait cette perversité qui nous a toujours fait peur. Les perversités matinales.
Moi, je n'aime pas beaucoup répéter.
Il n'apprend rien.
Il arrive.
Oh, bah, voilà, ça va être pour ma gueule. Alors, mais c'est pas moi qui dis que tu étais petit.
Il est à fond. Il est à fond d'énergie. Il lit deux fois le truc en répétant vaguement. Il est à fond. C'est un acteur de génie absolu. Et c'est un bonheur parce qu'il te fait rire. Voilà. C'est pour ça que je vais le chercher et j'écris, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Vu en plus le pognon qu'il me doit.
Christian, un petit flashback vers vos années 70, les vraies années 70, qui étaient celles de vos débuts, non pas au Splendide, mais au cinéma, où vous êtes crédité de l'idée originale avec Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte d'un film avec quelques monstres sacrés. Oui. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
Alors, l'idée sur Hold Up, ça nous est venu parce que à partir du lieu, en fait. Hein. Beaucoup d'autres choses, c'était un lieu qui nous semblait intéressant pour qu'il s'y passe des choses.
La gare de l'Est vous inspire
ce qu'il y a en dessous de la gare de l'Est. Hein,
Les relais toilettes.
Ça nous a inspiré, et alors on a voulu faire quelque chose dans ce lieu-là.
Ce sont trois malheureux types qui font un hold-up très important.
Combien?
Tenez, avec un pesé.
À notre avis, il y en a environ...
Plein de billets.
Il n'y a pas loin d'un milliard.
Bernard Blier, Jean Lefebvre, Michel Serrault, trois monstres sacrés. Ça devait être un rêve d'écrire pour eux.
Un rêve absolu, c'est extraordinaire. Après, Bernard Blier, on a tourné avec lui dans Twist Again à Moscou.
Ah oui.
On était au cinéma en le regardant tourner, tout en tournant avec lui. Oui. Acteur incroyable, personnage incroyable. Oui. D'une drôlerie, d'une méchanceté, de plein de conseils. Emballé d'avoir des jeunes qui étaient totalement fans de lui et donc donnant... Plein de conseils magnifiques.
Lequel en particulier vous reste?
Un des conseils qu'il m'a donné, puisqu'on tournait très très loin, il m'a fait, je crois que tu repars ce week-end en France, écoute, tu passes par Zurich. Alors je lui dis oui,
Il me fait, qu'est-ce que tu vas faire? T'as une escale importante? Je lui dis, oui, il y a 3 heures, c'est un peu long. Bah, c'est rien. Tu prends un taxi, tu vas centre-ville, Brasserie Lovenbro. Tu commandes un hareng pomme à l'huile et tu penses à moi. Voilà. Conseil de Bernard Blier.
Merveilleux.
Qui prenait le train pour aller chez Yéli à Avignon. Non, mais c'est des personnes. Honnêtement, moi, j'ai fait ce métier. Ouais. Michel Serrault, jamais la même prise, incroyable.
Alors on continue pour le plaisir, on regarde un extrait des Visiteurs.
Ne vous y trompez pas, ce film s'inscrit dans la grande tradition de la comédie à la française.
Je m'appelle Godefroy Amaury, comte de Malfaite, de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt. Et je suis un noble.
Pour vous résumer, si vous voulez mon rôle, je suis un gueux. Voilà, un gueux, je suis l'habillé en gueux, je suis un gueux.
Attends, le gueux!
Ah, j'ai perdu l'habitude de nos folles chevaucher dans la lande. Tu souffles comme un chien!
Est-ce que vous vous souvenez quand vous avez vu ce film? Mais
bien sûr, je m'en souviens, je connais les répliques, c'est l'incarnation totale. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne peut pas entendre des ouilles, Jacques couille. Enfin, on connaît.
D'ailleurs, c'est la jubilation génial. De jouer. Il a une jubilation de jouer.
Le plaisir.
Donc,
c'est l'incarnation totale.
On attend
totale.
Qu'il parle. Mais c'est ça, c'est un truc. Alors je pensais toujours qu'il y a que les acteurs qui comprenaient ça, mais il y a une jubilation de l'entendre, que ce soit dans celui-là. Mais moi, j'ai énormément d'admiration pour ça, parce qu'il fait ça, et il sait faire, par exemple, la course du rat à travers les champs. Et comment ça s'appelait?
Je vais craquer.
Je vais craquer. Alors, je vais craquer, c'est le truc, le film où tu te dis...
D'après Lozier,
ouais,
François
Letarrier. Et tu te dis, là, c'est le loser, mais ouais. Magnifique. Et après ça...
Gilbert Ozandro.
Et j'adore quand tu racontes l'anecdote.
Jérôme
les enfants.
Jérôme magnifique Lozier. Il est passé un peu passé de
il adore Jacouille. Et je veux dire, la jubilation, je pense que les enfants le sentent.
Mais les enfants, oui.
Raconte
tout
quand
le
tu dis
monde.
Que les enfants...
Mais les enfants,
comment
ça
quand attends, on a fait le numéro 2, donc le personnage était devenu... Et alors, les enfants venaient me voir tourner, ils étaient... Pour eux, le personnage était vrai.
Il existait.
Il existait vraiment. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être face à Mickey qui existe vraiment. Et comme il est bourré d'armes partout, parce que Jacouille est truffé de couteaux, de machin, etc. Parce qu'un moindre pépin, pouf, il est extrêmement violent. Ah, ça leur faisait peur et ça les emballait. Tu vois. Donc c'est pas du tout un personnage pour les enfants, mais ça attirait beaucoup les enfants.
Ah non, c'était génial. Ah, tout d'un coup, Jacouille était là.
Mais c'est ça, il...
absolument.
Tu sais, le geste, l'énergie qui fait... Ouais.
C'est d'ailleurs, là, c'est Oui Productions qui produit ce film.
Avec mon
non,
ami...
Pas moi.
Jean-Marie Poiret.
Non,
Oui Productions.
Il y a Oui Productions, il y a moi, on coproduit avec Olivier Delbosque et Canal, voilà. Donc on est trois.
Ça sort le 14 juillet prochain, fête nationale, dites donc.
Yes.
C'est vous qui avez choisi la date?
C'est le distributeur, Canal, voilà.
Je ne savais pas très bien où j'allais avec cette question.
Je trouvais que c'était une bonne idée. Non, mais on était d'accord pour ça. Mais on n'a pas mis de symbole. Encore que, on peut effectivement se poser la question. Et je pense que c'est une question intéressante. Pourquoi? Eh bien, écoutez, réfléchissez. On essaiera de donner la réponse.
Voilà la semaine, méthode Boulin.
Oui, la méthode Boulin. Parce que la méthode Boulin est un instinct. Et ça permet d'entendre. Non, mais non, c'est très bien, 14 juillet, formidable.
Ce qui est génial, c'est ça. Boulin est quand même un imbécile que tu regardes en live.
Oui, mais en même temps, c'est Maigret avec la pipe.
C'est Maigret.
Moi, j'ai joué beaucoup de personnages avec la pipe, hein, notamment dans Corned Beef. J'adore ça, parce qu'il y a un côté posé. Qui avait d'ailleurs Bernard Blier. J'ai le temps. Et automatiquement, un mec avec une pipe, t'en impose.
C'est vrai que ça donne
un peu. Tu poses une question à un mec qui a une pipe. Et ça, c'est remarquable. Ça s'est perdu.
Oui, c'était aussi un boulet dans Corned Beef.
Oui,
c'est un boulet. Mais le...
C'est vrai que
le mec le dit, les femmes aiment énormément les hommes qui fument la pipe.
C'est sûr, c'est un sondage récent ou pas?
C'est un sondage un peu ancien, mais qui reste valable.
Non, mais c'est vrai que ça pose son...
Mais ça te pose un mec. Voilà,
vous allez vous mettre à la pipe, Benoît.
Non, mais j'y ai pensé pour ne pas mettre de masque, toujours me promener avec une pipe.
Ah.
Mais c'est vrai que j'y ai pensé à un moment, je me dis, genre, comme ça, tiens, je me prends une petite pipe.
Messieurs, madame,
merci.
Vous restez avec nous?
Non, on connaît l'autre invité, non. Il s'est déjà disputé avec Christian, donc je
ne sais pas. Oui, alors je ne sais pas, je crois que c'est quelqu'un qui fait du vélo. C'est un type qui fait du vélo.
Non, c'est un écrivain, journaliste passionné du Tour de France.
Du Tour de France, c'est du vélo.
Exactement.
Moi, je fais du vélo tous les matins, donc je suis emballé par le vélo.
Vous êtes emballé? Le vélo et les bateaux.
Je sens que ça va l'intéresser, ton vélo d'appartement.
J'adore.
Le Tour de France.
Ce mec est un champion et tu vas lui parler de ton petit vélo d'appartement.
Mais et alors? C'est le principe de la discussion.
Mais dans quelle planète? Sur quelle planète es-tu? Dans quel monde es-tu?
2 secondes.
Oui, mais pardon, excuse-moi.
La 108e édition du Tour de France s'élance samedi de Brest, avec toujours des inconditionnels prêts à avoir passé la caravane, parmi eux Christian Clavier.
Il faut un sacré courage pour venir voir passer le Tour de France.
Mais je pense, oui, c'est une journée comme ça.
Vous venez d'où? Vous venez de loin, là?
Ben oui, de Lot-et-Garonne. On vient de
du Lot-et-Garonne?
Oui, oui.
Combien de kilomètres pour venir au Tourmalet?
Oh, 200, on a dit ça.
De quelle région êtes-vous?
Les Deux-Sèvres.
Combien de kilomètres ça représente?
500, tout rond.
Vous n'avez pas trop froid?
Je vais bien.
Oh, non, froid.
Où est-ce? Vous êtes là depuis longtemps?
Oh oui, depuis 6h30.
On est là depuis 3 jours.
Oui. Bonsoir Christian Laborde. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Christian Laborde.
Vous publiez le Tour de France aux éditions du Rocher. Votre livre est un abécédaire ébaudissant avec A comme abandonné. Et pourtant, au Tour de France, on n'abandonne jamais.
C'est la devise de René Vietto. Si on perd un œil, on le raccroche avec du Chatterton, mais on continue, disait-il. C'était un punk.
Ah oui, c'est ce qui fait que le Tour de France est la course cycliste la plus romanesque, la plus dure, la plus spectaculaire, avec des sommets à grimper devenus mythiques.
Tout leader lâche Merckx, Ara et les autres sans coup férir. Il a passé une accélération qui a laissé tout le monde sans réaction. On attendait un exploit. Le brave Poupou l'a réalisé aujourd'hui. Poulidor passe Van Est qui n'en peut plus, Van Est qui restera sans réaction. À 38 ans passés, Poulidor remporte l'un de ses plus beaux succès dans le Tour de France. Il est réconcilié avec le Tour, il est réconcilié avec la foule qui en fait n'a jamais cessé de croire en lui depuis plus de 12 ans.
Raymond Poulidor, c'était le 15 juillet 1974. Les gens pleuraient sur le bord de la route.
C'était la première montée du plat d'Adé et il attaque dans le premier virage. Et là, il lâche Merckx.
C'était belge.
Il a 38 ans et une explosivité extraordinaire. Et les gens pleuraient parce que ça faisait 10 ans qu'ils attendaient un démarrage de Raymond Poulidor. C'était le cas de mon père qui, lorsqu'il rentrait du travail, me disait « Il a attaqué Raymond ?» J'ai dit « Non, il attaquera demain Raymond, tu vas voir, il attaquera demain. » Et il a attaqué. Et depuis, il y a une plaque au plat d'Adé.
À l'endroit pile
où il a attaqué, qui signale l'exploit de Raymond Poulidor. Alors, donner son nom à une avenue, c'est à la portée du premier général venu. Mais donner son nom à un virage du plat d'Adé, il faut s'appeler Raymond Poulidor.
Qui était le numéro 1 dans le cœur des Français. Il recevait autant de lettres par jour que Brigitte Bardot.
Absolument, dans les années extraordinaires. Et c'est rare qu'un sportif...
Ils les ont échangés d'ailleurs après.
C'est rare qu'un sportif arrive à une telle popularité, tout sport confondu. Mais je crois qu'il était en harmonie avec un pays qui était encore une France relativement agricole. Et il faut savoir qu'il est directement passé, finalement, Raymond, des manchons de la charrue au guidon du vélo. Et avec aussi un certain courage, avec des moments difficiles, de la malchance. Et ça le rapprochait des gens qui travaillent et qui souffrent, qui ne sont pas récompensés. Cela dit, ça reste quand même un numéro un. Hein, parce que 189 victoires. Et puis, bon, il gagne Milan-San Remo, il gagne le Tour d'Espagne. C'est un personnage vraiment magnifique.
Un grand champion, un grand cœur et beaucoup d'humour.
On trouve vraiment tout à la Samaritaine.
Le maillot jaune,
oui,
qu'il a porté.
Il ne l'a jamais porté. Jamais. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'il y a toujours un coureur qui s'en empare pour un contre-la-montre, le porte pendant 2 ou 3 jours. Il l'a raté pour 6 secondes dans des contre-la-montre. Et c'est une gloire sans maillot jaune. Et ça c'est absolument ahurissant, on ne comprend pas. Qui n'ait jamais gagné le Tour ni porté le maillot. Mais c'est Raymond Poulidor. Quoi.
Ah oui, mais les 6 secondes, justement, qui lui manquent, ça fait rentrer dans la légende. Oui. Et ce sera ce type de légende-là contre la légende métronomique de Jacques Anquetil. C'est comme les Beatles et les Stones, il fallait choisir entre les deux à cette époque-là.
Oui, je crois. Mais je crois que les deux, d'ailleurs, faisaient un merveilleux couple. Vous savez, Raymond Poulidor, ça veut dire polissoir en occitan, c'est un nom d'outil. Et Raymond, c'était le polissoir et Anquetil, le polisson. Mais les deux ont fait leur numéro et je crois qu'on se serait beaucoup ennuyé si Raymond Poulidor n'avait pas été là pour chatouiller Anquetil.
Ah bah oui,
exactement.
On l'appelle bien sûr.
Il faut toujours un numéro 2 très très
bien,
près.
C'est bien cette intervention.
C'était utile, n'hésitez pas.
On va se faire le plaisir, Christian, de cette photo de 64 dans la montée du Puy-de-Dôme, le touche-touche entre Anquetil et Poulidor, qui fait partie de la légende. Anquetil, dont on disait qu'il avait un alambic à la place du foie. ça fait plaisir. Pas... oui. Non, mais parce que...
Non, je sais, il était capable de boire du champagne, avant, de faire une fiesta la nuit, c'est... et de faire une course.
C'est l'époque aussi où il y avait Raphaël Geminiani, non?
Oui, oui.
Absolument.
Qui était son directeur sportif et qu'il avait qualifié de... Anquetil est un alambic, une machine IBM et un réacteur.
Ah ouais. Mais un alambic, mais qui pouvait donc boire du vin blanc juste avant d'enfourcher le vélo pour une grande épreuve.
Et durant la course, parce que cette année-là, au sommet du col d'Ambalira, il a englouti un bidon de champagne brut pour revenir sur Raymond Poulidor. Ça, il n'y avait que lui qui faisait ça. Il était le seul à pouvoir.
Et pourtant, on a retrouvé une archive de 57 où on présente Jacques Anquetil comme un modèle de modération à table et au bar.
L'une des plus jeunes et des plus brillantes figures du cyclisme, Jacques Anquetil, a mis ses règles en pratique avec une rare conscience. Pas une goutte d'alcool. À 23 ans, on le donne comme le Bobet de demain.
Il y a quelque chose entre Anquetil et Benoît.
Et Benoît, c'est Benoît le soir avant d'aller tourner.
Ah non, vous parlez de régime, là?
Oui. Tiens. Ah bah oui.
Non, du tout. Je veux dire, non, je suis très admiratif de Jacques Anquetil. Mais non, ce qui est assez exceptionnel, hein, c'est ce type avait une force...
Oui. Diabolique.
Hein, vous vous souvenez? Et ça me rappelle le régime de Anne.
Pas du tout.
Si. Revenons quand même à des choses un peu plus sérieuses. Mais là, on a rendu deux hommages à M. Poulidor. J'ai fait un film qui s'appelle Le vélo de Guylain
Lambert. Oui.
Et deux fois, on lui a rendu hommage. Une première fois où j'ai dit ce type va tout rafler parce qu'il faisait énormément de publicité qui était très drôle. Et le bureau dans lequel mon frère José Garcia m'explique qu'il est en train de me dépouiller, c'est le bureau copie conforme de celui de Poulidor avec téléphone en tissu. Parce que j'invite les gens à regarder le vélo de Guylain Lambert si ça le... Si oui, j'ai envie de revoir mon visage un peu plus émacié. À l'époque, je travaillais avec des films un peu. Voilà, affûté, comme une dague.
Tu étais très bon, d'ailleurs, dans ce film-là.
Oui, je parle très peu, je pédale.
Oui, mais tu pédales bien. Mais moi, je me souviens très bien
d'arriver à lycée en combien
J'avais 14 ans à l'époque, on vivait là-dedans. Hein. C'était, on avait des petits personnages, on les avait, et on prenait parti pour l'un.
C'est-à-dire, c'est une nourriture extrêmement à la fois populaire. Et c'est marrant de voir comment le tour fascine à la fois les gens du bord de la route, dont je fais partie, hein, mais également les écrivains, également les cinéastes.
Et les maires. Les maires de grandes villes.
Michael Cimino est venu sur le Tour de France pour faire un film. Il avait suivi le Tour de Le Mans en 84. Ah. Et c'est Dustin Hoffman qui devait jouer le personnage.
Mais ces années, les films sur le vélo, il y a une sorte de malédiction sur les films pour le vélo, parce que le vélo vient chez les gens. Ouais. Et donc c'est un problème.
Mais d'aller au cinéma.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le vélo maintenant à notre époque a moins de, il y a moins ce côté guerrier, soldat.
Alors là, c'est allé un peu vite, Benoît. Un peu vite.
Dans la question?
Non.
Oui.
Dans la conclusion.
Ah, moi, je viens
un tout petit peu vite.
Lorsqu'on regarde aujourd'hui, vous voyez, il y a eu un âge d'or là. Hein. On en parlait avec Pierre là quand on évoque Poulidor, Anquetil, Coblet, un âge d'or européen. Aujourd'hui. Il y a quand même un âge d'or mondial. Richard Carapace, il est équatorien. Richie Porte, il vient de Tasmanie. Egan Bernal, qui a gagné le Tour en 2019, il vient de Colombie.
Ah, mais je comprends ce que je...
Arrive des Lascar, que l'on voit briller sur le Tour d'Italie. Et j'espère qu'ils vont venir sur le Tour de France. Et j'attends la venue, pour vous, d'un certain Remco Evenepoel.
Ah, je lui dois de l'argent aussi.
Le jeune espoir belge.
Parce qu'il avait vraiment un nom à venir me chercher.
Là, vraiment.
Et Jean Frickpoul va venir te chercher.
Donc, il y a des coureurs. Ouais. Il y a, oui.
La nourriture encore, ça fait partie de la légende.
Anne-Elisabeth, on va réaborder la nourriture.
La nourriture, les côtelettes dans les poches, les cuisses de poulet dans les cuissardes, les coureurs qui mangent des bananes avec la peau. Enfin, on a entendu parler de ce genre de choses. Mais la base de la nourriture, au petit déjeuner, avant le départ de la course, c'est... les spaghettis, les pâtes.
C'est le sucre lent, ce qu'on appelle le sucre lent.
Le petit déjeuner du coureur cycliste, à lui seul, vaut déjà le détour. Au petit matin, le plat principal s'appelle spaghettis. Version huile d'olive ou sauce tomate, les pâtes accompagnent les coureurs tous les jours pendant 3 semaines. Voilà pourquoi, bien souvent, le petit déjeuner ressemble à s'y méprendre à une soupe à la grimace.
C'est ça qui est difficile, c'est les pâtes. Donc... à la fin, c'est sûr que ça commence à être difficile.
Dès qu'on finit le tour, je peux vous dire, on arrive à la maison, paquet de pâtes, il reste dans le placard.
Voilà, les pâtes au placard. Mais dans votre livre, vous évoquez le géant de Colombes, François Faber, qui le 16 juillet 1926 a englouti un poulet rôti en 3 minutes et 8 secondes pendant que son technicien vérifiait son vélo. C'est vrai, ça?
C'est absolument vrai. C'est les moments de défaillance. Quoi, de,
avec les os.
Et donc là, il engloutit. Mais vous avez vu les pâtes, la quantité de pâtes et comment ils sont affûtés. Il y a 3 mois pour récupérer le Tour de France. Pendant 3 mois, ils sont épuisés. Oui. Ouais. Et donc, pendant la course, effectivement, il y a une alimentation extraordinaire, gargantuesque, mais...
Et qu'ils éliminent.
Ils éliminent.
Ils éliminent avec l'effort. Ouais.
Et les Benoît. Aussi, hein.
Il fait rire, Benoît.
Parce que vous êtes une anthologie, mais si on voit la photo de François Weber, maintenant on va se souvenir de lui. Ce type a mangé un poulet.
En 3 minutes.
Et on dit. Et gagner le tour.
Hormis sa coupe de
feuille.
Et gagner le tour.
Mais c'est ce que j'avais dit,
1909.
Christian. Mais bien sûr, non, mais. Mais c'est vrai que c'est.
Arrêtez, Christian.
Et pendant l'étape, il donnait des côtelettes à ses compagnons d'échappée.
Ce qui est sympa. Oui, oui, oui.
Il y avait des côtelettes dans les poches.
Ce qui est sympa, parce que le mec a fait le marché, donc il distribue. C'est tout à fait bien. Ça reste. Il y a une solidarité. Il faut parler de la solidarité.
Christian, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur les expressions du cyclisme et celles particulièrement du Tour de France? Il y en a des dizaines. Sucer la roue, faire valser les soquettes, les rotules en os de mort, oui. il s'est refait la cerise, etc. Une de vos préférées
et... Alors, une de mes préférées, c'est Raymond Mastrotto qui va gagner l'étape Pau-Luchon en 67. Il est mal dans le Tourmalet, d'ailleurs. Mais il se refait la cerise, il arrive à gagner à Pau. Et on lui demande à Pau comment s'est passée la montée du Tourmalet. Et Mastrotto répond, dans le Tourmalet, je suais tellement que je graissais la chaîne.
C'est extraordinaire.
Alors, vous le disiez, c'est un sport populaire, apprécié aussi bien par François Mitterrand que par Nicolas Sarkozy. Bah,
François
tous les
Mitterrand
présidents.
Fait beaucoup, beaucoup de vélo. Hein.
Énormément, d'ailleurs, ça se voyait.
Il était connu pour ça. Il connaît pour ça dans les listes.
Il a démarré.
Il faisait le tour.
Mais ils allaient. Ils ont tous sacrifié.
C'est des anecdotes qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut quand même en mettre au bout du jour.
Non, il y a des films spécialisés.
Ah, oui.
Mais ils ont tous sacrifié au rituel de la pause avec le maillot jaune. En 1960, le peloton s'est carrément arrêté pour saluer Charles de Gaulle, Christian, dans son village de Colombey-les-Deux-Églises. Et quand, dans un autre registre, Lance Armstrong est dans la place, c'est Hollywood qui débarque.
Carnival here. You see all the people. I love the ladies. They're sitting on the cars, going up the mountains, throwing stuff out to people. Allô? And they're like, allô? And they start taking the turns, and you see them. Michelin. It's amazing.
Lance a offert à son copain Robin une journée sur le tour pour son 51e anniversaire.
Je suis très heureux d'être ici maintenant. C'est un cadeau pour moi d'être dans ces voitures en cette étape. Merci, monsieur.
Une réaction?
Oui, oh, ben, écoutez, c'est, d'abord, je suis ravi de revoir le visage de Lance Armstrong parce que moi, je suis écrivain et donc je ne juge pas.
Ouais.
Et donc, c'est un personnage étonnant. Je crois
qu'il a fait un comeback.
Il devrait, oui. Je crois que sa vie, sa carrière devrait être racontée par un auteur de polar. Parce que c'est du polar, Lance Armstrong, entre une enfance élevée à coups de pagaie par un beau-père cruel, le cancer qui arrive. Je veux dire, au moment où il devient le plus jeune champion du monde de cyclisme, le cancer lui est déclaré. Et il a cette formule extraordinaire. Il a dit, ceci est un combat pour ma vie et j'ai bien l'intention de le gagner. Mmh. Donc, il le gagne. Et ensuite, il va connaître la carrière qu'il connaît. Il y aura évidemment, après l'ascension, il y aura la chute. Mais c'est l'ensemble qu'il faut regarder et qui est intéressant.
Christian Laborde, vous avez réussi à ramener le calme sur ce plateau avec cette voix et cet accent toulousain auquel rendait hommage Claude Nougaro.
Christian a eu la bonne idée de publier son dernier roman, son dernier livre, sous la forme d'un roman feuilleton dans la Nouvelle République des Pyrénées, le journal, en quotidien, pendant le deuxième confinement, pour qu'il n'y ait pas que des mauvaises nouvelles, des virus et des épidémies dans les colonnes du journal. Donc le livre Bonheur est paru.
C'est pour Virginie.
En roman feuilleton.
Et j'offre le Tour de France, l'abécédaire aux éditions Poche Le Rocher, à Christian.
Merci.
Qui s'est intéressé
voilà,
à cette interview.
J'aurais dû
le
mettre. Je remarque que c'est à moi qu'on l'offre.
Ouais, moi rien, non, j'ai
le
vieux
pas,
stylo. Quoi.
De toute façon, c'est...
Voilà.
Et les vieilles fiches.
Je le garde pour moi. Je le garde pour moi.
Le vieux savon, là. Donne-moi un vieux truc que je ne sois pas venu pour rien.
Voilà.
Merci, monsieur Rennes.
Voilà. Merci beaucoup, Christian Laborde.
Bravo, Christian.
Merci d'être venu ce soir.
Ça m'a fait plaisir.
Sur le plateau de C'est à vous. Le speakerin, Bertrand Chamerois.
Voilà, Bertrand Chamerois.
Salut, ça va?
Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, écoutez, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de vélo, donc je vous propose une chronique spéciale. Cyclisme, c'est important. Amateurs de vélo, si vous êtes en manque de course, en attendant le Tour de France, pour combler ce vide, je vous recommande chaudement de regarder BFM Paris, puisque chaque matin, ils proposent un rendez-vous assez fascinant.
Tous les jours, nous allons circuler dans les rues franciliennes pour vous montrer l'affluence sur les pistes cyclables dans notre région.
Un point route des pistes cyclables parisiennes, c'est sympa et c'est surtout passionnant. Il y a vraiment beaucoup d'action. Le Tour de France à côté, c'est ma nièce en tricycle.
Donc voilà, c'est parti, c'est vert, on peut y aller. Premier pas à vélo sur le vélo BFM Paris, un vélo électrique. Et vous voyez, je ne suis pas toute seule sur la piste cyclable. Ce matin, quelques vélos qui me doublent quand même. C'est vrai que je ne suis pas encore très très rapide. Et quelques trottinettes que nous avons croisées.
Ça doit être très sympa pour le caméraman, bien sûr, en marchant. Non, pour vibrer, c'est évidemment le Tour de France qu'il faut regarder. Le Tour, c'est de l'action, c'est des paysages magnifiques de notre belle France, le pays aux 400 fromages. Mais aussi et surtout, des commentaires, ma grande passion. Sur France Télé, ils sont assurés par Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert et Franck Ferrand, mon chouchou, le spécialiste de l'histoire qui nous a régalé cette année. Sa mission pendant le Tour de France rythmait la course d'anecdotes historiques. Problème, on va dire les choses clairement, ses camarades n'en ont strictement rien à carrer. Ils ne réagissent jamais. Franck Ferrand est encore plus seul que Tom Hanks dans Seul au monde.
Il fait 16 hectares ce plan d'eau. C'est bien sûr un endroit idéal pour la baignade et les loisirs nautiques. Et vous savez ce qu'on y pêche dans la région, presque par définition. On pêche des carpes, notamment.
Indéniable.
Et elles sont belles.
Et elles sont belles. Indéniable. Et on aurait pu aussi calculer le nombre de mètres cubes qu'il y a dans ces lacs de montagne qui en perdent beaucoup du fait du réchauffement. Tu peux continuer à parler. Hein,
je précise simplement que les images que vous avez vues ne sont pas des images du Tour, celles que vous allez voir après non plus. On les a collées pour des raisons évidentes de budget sur le son d'origine.
Non,
renseigné auprès de la production.
C'est une course de bobsleigh, là. Voilà. C'est tout à fait différent.
On aurait vraiment
mais
dû hypothéquer la boîte.
Mais qui était aussi commenté par la personne du vélo du début.
Franck Ferrand, qui est très malin, hein, puisqu'il a vite compris qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Alors, il a une petite technique. Quand il termine une anecdote, il attend de voir si ça réagit. Et quand personne ne moufte, ce qui est quand même souvent le cas, il enchaîne en disant ce qu'il aurait aimé qu'on lui réponde.
La foudre était tombée en 1852 et elle avait effondré une partie de cette petite église. On n'imagine pas ce que peuvent être les orages dans une région comme celle-là.
Le plus triste dans cette histoire, c'est vraiment ses collègues ne font aucun effort. Écoutez le blanc interminable qu'ils vont laisser peser après l'anecdote qui va suivre avant d'enchaîner sur leurs commentaires.
On peut peut-être dire tout de même qu'elle n'est pas due, comme on l'a longtemps cru, à Jean Erard, mais bien à Jehan Sarrazin, qui était un ingénieur du roi Henri IV.
Ah oui, que j'ai beaucoup. Ça, c'est très intéressant, l'anecdote sur Sarrazin.
14 km avant l'arrivée.
Le copain,
c'est beau et triste à la fois. Résultat, au bout d'un moment, chacun fait sa vie dans son coin.
Et c'est ça qui est plaisant en regardant le Tour, parce qu'il y en a pour tout le monde.
Exactement. Et eux, à la fin,
j'aime beaucoup l'anecdote de Jean Sarrazin, parce que c'était de l'époque d'Henri IV. Et alors, c'est intéressant parce que nous avions.
Vous imaginez la petite cabine.
Ben oui, c'est l'époque
de. Ils ne regardent même pas.
Et à la fin.
Ah non, c'est remarquable.
À la fin, dans la cabine, donc il y en a un qui fait ses commentaires sur la course et Franck Ferrand de l'autre qui glisse ses anecdotes dès qu'il y a l'ouverture.
Et bien la régie qui dit voilà. Pressons, les gars, pressons.
Et même quand il n'y a pas d'ouverture, il y va.
On repart sur le peloton. On repart sur le peloton.
Un coup de fil à ses amis. Je me sens horriblement seul.
Mais non, mais c'est vrai parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien.
Franck, arrête. Tu m'as écouté aujourd'hui? Oui, mais non, tu
vas. Regardez, là, il va intervenir, alors que ça n'a rien à voir avec la discussion.
Il aura certainement sa carte à jouer sur une étape.
Complètement. Elle a été reconstruite à la fin du 18e, cette petite église.
Et c'est pas pour autant qu'il ne fait plus conséquence à la fin. Foutu pour foutu, il s'est dit, bon, personne ne m'écoute, je vais faire ma pub.
Vous savez qu'on va célébrer l'année prochaine le bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Et à cette occasion, j'organise une grande croisière, avis aux amateurs.
Je vends une remorque.
Mais en très 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 bon état.
C'est là où c'est tout le monde dort. Oh, j'en profite.
J'ai une bonne nouvelle pour
Jacques, est-ce que tu peux bouger ta bagnole, s'il te plaît?
Tu dois laisser des bagnoles. Est-ce que tu peux bouger ta bagnole?
Ma femme me dit que t'es garé devant chez moi.
Oh, voilà, merci Ludo. Bertrand.
Mon Dieu, super, c'était drôle.
Ah, c'était drôle, hein.
Bravo. Bah, on félicite Franck Ferrand, parce que c'est un travail quand même. Commenter.
Seul.
Vous connaissez des génies qui ont commenté des lacs? Tu dis, ah, c'est quoi, premier exercice d'école? Le lac. Alors, le lac. Eh ben, allez-y, une minute là-dessus. Allez, le lac, là, regarde.
Bah oui, mais c'est une école. Hein.
Bah oui, bien sûr, c'est pour bien ça que j'ai beaucoup de respect.
Beaucoup d'admiration.
Bon, ce qu'on va faire, Elisabeth.
On enchaîne tout de suite. Voilà, merci ouais. Bertrand.
Merci Bertrand et bravo.
Merci.
Oui, merci. C'est passé chez le coiffeur, merci. 2 millilitres Nguyen. Un peu de sérieux.
Allez, Anne-Elisabeth.
Non mais ça continue. Non mais c'est interminable parce que vous faites le plateau.
C'est le meilleur pour la fin.
Non, bien sûr, mais parce que vous allez jusqu'à 23-24 heures.
Émilie, on y va.
Au sommaire ce soir, vous êtes belge, vous êtes français, ça m'a inspiré un battle France-Belgique. D'abord le masque, je fais vite, il y a l'art et la manière de porter un masque, il y a la manière belge.
Qu'est-ce qu'on a encore fait?
Ik heb toch de indruk dat mijn oren te groot zijn.
Voilà, l'ancien vice-premier ministre de Belgique qui devrait prendre exemple sur Jean Castex, qui lui a l'art de retirer le masque à la française.
Merci.
Pas toujours pratique le masque, hein, vous voyez. Bien. Sur le message global.
Il y avait eu cette fois où il avait bien réussi à l'enlever, pour rien.
Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur.
Oui, monsieur le Premier ministre, la question a été posée finalement des départs en vacances.
En sport, les Belges ont le don d'inventer des disciplines contre les Belges.
Contre quoi?
Elles ne tournent pas rond et c'est là tout leur charme. Les boules de pétanque en cube font de ce championnat de Belgique une compétition carrément surréaliste.
On ne sait pas évaluer si la boule tombera sur un coin ou sur une tranche.
L'intérêt de la chose, c'est que ça ne sert à rien de s'entraîner.
Virginie,
vous nous expliquez?
Non, parce que je ne connaissais pas cette tactique. Je préfère les rondes, moi. Ça, je ne sais pas de quelle...
Mais c'est les mêmes qui jouent des ronds.
Moi, je joue
des ronds. Ils jouent aux 421 ronds et ça dure depuis maintenant un millénaire. Hein. Non, c'est les gens qui réinventent l'histoire.
La France aussi réinvente l'histoire avec un sport improbable et brutal, le lancer de menhir.
Boosté par la présence de potions magiques et l'absence de contrôle antidopage, les lanceurs de menhir se succèdent. La pierre pèse entre 10 et 25 kilos selon les catégories. À chacun sa technique pour lancer.
C'est la première fois que je lance le menhir.
Et alors?
C'est très lourd. C'est très très lourd, on ne s'attend pas à un tel poids.
N'est pas Obélix qui veut?
Non. Mais je m'entraîne dans mon jardin, j'ai plein de pierres à ramasser.
Pour la petite histoire, le record du lancer atteint les 9 mètres. Une performance digne d'Obélix. Mais tout le monde n'est pas tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit.
Oh, mais imagine-toi sa femme quand ils se disputent, qui dit « T'as rien d'autre à foutre que de lancer des menhirs dans le jardin ?»
Ouais, mais c'est vrai que c'est...
T'as jeté des menhirs tout l'après-midi dans les jardins. La gamine.
Oh mon Dieu, c'est extraordinaire.
Ah oui, c'est extraordinaire. Toujours en sport, les Belges, quand on les bat au foot, exemple Coupe du Monde 2018, ils sont très mauvais perdants.
Les Belges jouent offensif, les Français jouent défensif et ils jouent pas le jeu. Nous, on vient pour gagner et les Français, ils jouent pour défendre. Ils ont marqué un but, mais c'est pas correct vis-à-vis du petit pays de la Belgique.
Regardez, ils ont brisé notre rêve, le quotidien qui parle du cynisme des joueurs français.
Après, il y a clairement des domaines où on ne fait pas le poids, le bricolage, le bâtiment, l'urbanisme. Il y a récemment eu cet agriculteur belge qui a tenté d'agrandir la Belgique au détriment de la France.
L'emplacement de la borne où elle devait se situer, ici, et elle se retrouve là-bas.
Conséquence, le village français est plus petit de 2,20 m au profit d'Herculine, la petite commune belge frontalière. Alors ici, tout le monde se pose la question, mais qui a déplacé la borne? Ce serait donc un agriculteur belge gêné pour le passage de son tracteur.
Il a agrandi la Belgique, il a réduit la France et c'est pas une bonne idée. Moi j'étais content, ma commune était plus grande, mais la maire de Boutigny-sur-Roc n'est pas d'accord.
Encore plus fort, ce Belge qui a détruit une maison, sauf que c'était pas la bonne maison.
On a attaqué le démolissement. C'était pas celle-là, quoi. C'était une plus petite qui était ici en contrebas à démolir. On s'est mal compris, à mon avis.
Il devait détruire plusieurs maisons sur ce terrain, mais surtout pas celle-ci. Voici la porte d'entrée, le matelas de la chambre à coucher et le garage. Aucun plan, les instructions avaient été données par téléphone. Les ouvriers reconnaissent qu'il y a eu négligence.
Bah, disons qu'il y avait 3-4 maisons abandonnées. Sur les 3-4, bah, il y a eu l'erreur de maison, quoi, en fait.
Attention, hein, maintenant. Faites attention.
Faites attention, maintenant.
On sait plus qui a gagné, qui a perdu, pardon. Moi, j'ai un
On sait plus qui a gagné. Ça dépend. Après, vous savez bien vous défendre de la meilleure des façons avec de l'humour belge.
Est-ce que les Belges sont plus intelligents que les Français ?
Ah, ça, sûrement, oui.
Tu as déjà remarqué dans les occasions de la vie que les Belges étaient plus intelligents que les Français ?
Non, mais ça, on le sait. Hein. On peut pas le montrer, on le sait.
Les Français, ils sont pas très gentils. En France, à Paris, ils sont tous dégueulasses.
Bonjour, monsieur. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on tue un Français ?
Non, je ne sais pas.
Bien, il suffit bêtement de tirer 10 cm au-dessus de la tête.
Et pourquoi ?
Ben, comme ça, vous lui tuez son complexe de supériorité.
Vous savez pourquoi les femmes françaises ont des petits seins avec des gros bouts ?
Non.
Parce que les Français ont une grande gueule et de toutes petites mains.
Et voilà. Merci,
ça valait la peine.
C'est vrai, ça valait la peine de rester. Vous venez à la maison quand vous voulez.
Oh, mais il fait
comme ça. Merci beaucoup, Émilie. Moi, je n'en peux plus. Il va falloir qu'on me change pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian Laborde, Virginie Hogg, Ben Appelvoort, Christian Clavier, Mystère à Saint-Tropez. Ça sort le 14 juillet prochain. Profession du père. C'est ce formidable film aussi de
Jean-Claude Amérique. Merci. Et merci à vous tous. Hein.
Qui sort bientôt. J'ai plus la date en tête. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était tellement bon de vous avoir sur le plateau de C'est à vous. Le meilleur pour Mystère à Saint-Tropez. Excellent été à tous les trois, excellent. À tous les quatre.
Vous ne fatiguez pas, Anne-Elisabeth.
Tout le monde s'en fout.
Ah, on est déjà sur la pub, là.
Allez, je présente nos invités, alors. Je remercie Christian Laborde. Dans un instant, Plus belle la vie, avec deux des héros de historique du feuilleton créé il y a 17 ans, Rebecca Hampton et Stéphane
Pinault.
Et le jeune Tim Depp qui revient avec un nouvel album. A tout de suite pour le dîner en terrasse de C'est à vous.
Allez, on y va, viens.
J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi.